6. Cédant enfin à ses irrésistibles entraînements vers le théâtre, Balzac allait affronter la grande mer dramatique, il allait doubler le cap des tempêtes. À notre avis, l'heure était mal choisie, le moment des plus détestables. C'était trop tard, beaucoup trop tard. Non que Balzac fût trop âgé pour apprendre la théorie d'un art assurément fort difficile, ce n'est pas là ce que nous prétendons. Les fortes constitutions intellectuelles acquièrent et rapportent jusqu'à la dernière minute de leur durée. C'était trop tard uniquement parce que Balzac était infiniment trop célèbre à ce moment de sa vie pour se faire pardonner la conquête d'une nouvelle gloire et de la gloire la plus enviée de toutes, la gloire dramatique. Quoi ? Ce n'était pas assez d'être lu et admiré dans tous les salons de France, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne et de Russie, d'être traduit dans les langues de toutes ces nations, d'avoir l'applaudissement délicat des cœurs et des yeux, il briguait aussi l'applaudissement héroïque des mains. Mais en vérité, cet homme se croyait donc un Charlemagne, un Charles Quint. Il rêvait la monarchie littéraire universelle. Dans cette question d'étonnement, il y avait toute une déclaration de guerre contre le téméraire écrivain. Comment Balzac ne le comprit-il pas, lui si subtil inquisiteur de toute pensée, lui prévoyant et habile comme un vieux juge d'instruction, lui qui avait arraché si souvent, avec la chair, le masque à l'humanité? Pouvait-il ignorer que l'envie, que la haine, que la jalousie impuissante à déchirer le livre, dont le succès les irrite et les exaspère, se cache sans danger dans les recoins assassins d'une loge de spectacle ? Et de là tue, à loisir, l'œuvre et l'auteur, et qu'elle les tue d'autant plus volontiers l'une et l'autre que l'œuvre est plus belle et que l'auteur est plus grand. Ce danger existe beaucoup moins, bien qu'il existe toujours, quand l'écrivain, fortifiant adroitement sa vie, a eu soin d'avoir toujours un pied dans les deux camps, dans le livre et dans le théâtre, de s'élever graduellement ici et là, ainsi que fit Voltaire dans les proportions du génie, ainsi que fit Frédéric Soulier dans la mesure du talent. Balzac négligea étourdiment cette tactique, et il fut vaincu, et il l'eut constamment été. Le moindre doute serait une folie à cet égard. Que les succès qu'ont obtenus deux ou trois comédies prétendues de lui, depuis qu'il n'est plus, ne se formulent pas ici en objection contre nous. Lorsque ces comédies furent jouées, il n'était plus là. Qui aurait-on sifflé ? Puis, il ne pouvait plus désormais en écrire d'autres. Quel avantage ! Puis, il est mort. Quel mérite ! La prudence fit donc complètement défaut à Balzac, résolu à écrire si tard pour le théâtre. Il y eut ensuite de la déraison de sa part, à tout faire pour augmenter gratuitement la défaveur formidable qu'il attendait. N'est-ce pas l'augmenter à plaisir que d'attaquer le théâtre, armé du sujet le plus dangereux, le plus scabreux qu'on pût aller prendre dans l'arsenal des combinaisons antipathiques au public français ? Le public français fut-il composé de 6 fois plus d'hypocrites qu'il ne s'en trouve d'ordinaire au parterre un jour de première représentation, de 6 fois plus de banqueroutiers frauduleux et de femmes perdues qu'il ne s'en étale en espalier aux avant-scènes et aux balcons, de 6 fois plus de bourgeois goitreux, crétins, idiots, malfaisants, venimeux qu'il ne s'en déploie aux 2e et 3e galeries, toujours aux premières représentations d'un ouvrage dramatique, vous n'en aurez pas moins, n'en doutez nullement, une assemblée ferrée à glace sur les plus purs principes littéraires, sur les plus purs principes religieux, sur les plus purs principes sociaux et sur tous les plus purs principes imaginables. Gare à vous ! Pas de sujet un peu hardi, pas de personnage trop excentrique, pas de style trop neuf. Aussi, les esprits aventureux qui rêvent de concilier toutes ces embûches, tous ces pièges à loups, tous ces guet-apens avec l'originalité dont ils sont doués, ne font pas un métier d'écrivain, mais un métier d'acrobate. Ils dansent pendant 3 heures sur la corde tendue et sur une corde tendue au-dessus d'un brasier. L'émotion qu'ils causent peut se résumer ainsi. Tomberont-ils, ne tomberont-ils pas dans le feu ? Il y a 100 à parier contre 1 qu'ils tomberont et qu'ils se tueront. Quelle chance reste-t-il à ceux qui, comme Balzac, n'ont pas même cette vigilance à peu près inutile ? Aucune. Balzac tentait donc l'impossible en provoquant le théâtre, la visière haute et avec ce magnifique dédain. Il rencontra nécessairement l'impossible. Revenons cependant à Vautrin, son premier coup d'épée donné au monstre. C'est à la porte Saint-Martin qu'il alla frapper. Un directeur fort spirituel, mais encore plus ruiné, lui répondit. Cet homme extraordinaire, je parle aussi du directeur, qui avait essayé de tout, de la tragédie classique et du drame romantique, de la comédie et de la féerie, des singes savants et des éléphants privés, qui avait poussé la hardiesse directoriale jusqu'à vouloir emprunter de l'argent à Louis-Philippe, 30 000 francs, et qui reçut, dit-on, cette spirituelle réponse du roi peu prêteur « Monsieur Harel, j'allais vous faire la même demande ». Ce directeur accueillit le désir de Balzac de se faire jouer sur son théâtre, comme le marin en péril accepte une ancre d'espérance. Il lui arrivait, non pas après un déluge, mais après 1000 déluges, une arche de salut. Harel se crut sauvé. Il mit même, tous ces détails sont présents à ma mémoire comme s'ils dataient d'hier, il mit tant d'empressement à recevoir le premier drame, le drame vierge de Balzac, qu'il le reçut avant qu'il fût entièrement fait. On peut à la rigueur dire qu'il ne reçut rien du tout. N'importe, ce rien en 5 actes et en prose de Monsieur de Balzac fut accepté avec acclamation. Il faut dire ici, pour donner à la phrase précédente toute la clarté qu'elle exige, que Balzac, par une habitude déjà ancienne, traitait ordinairement avant la création de l'œuvre, fût-ce un roman ou une nouvelle ou un article. Il s'attachait ainsi au flanc l'aiguillon de la nécessité. C'est une justice d'ajouter que Balzac, dont la loyauté complétait le génie, possédait jusqu'au fanatisme la religion de l'exactitude, quand il lui plaisait de se lier par sa parole. Il courut donc, dès que le pacte avec Harel fut conclu, se casemater au 5e étage de la maison du Buisson, le tailleur, au coin de la rue Richelieu, ancien hôtel Fracasti. Et là, assisté d'un laborieux copiste, attaché alors, je crois, à la rédaction d'un petit journal d'opposition, il commença à écrire le fameux drame de Vautrin. Ses relations de chaque jour, et pour ainsi dire de chaque instant, avec le théâtre de la Porte Saint-Martin, ne lui auraient guère permis d'habiter les jardins, où il n'allait même auparavant qu'avec fort peu de régularité, et où il ne résida du reste, ainsi que nous l'avions déjà dit, qu'à des intervalles inégaux. Dès ce moment s'ouvrit pour lui la campagne la plus rude, la plus accidentée, la plus accablante qu'il eût jamais faite, lui pourtant qui connaissait les courses haletantes chez les libraires du Faubourg Saint-Jacques, chez les éditeurs du Panthéon et chez les escompteurs perchés sur la montagne de Passy. Obligé de faire, de défaire et de refaire tous les jours chaque scène, chaque phrase de sa pièce, de répondre aux 1000 et 1000 exigences des comédiens, d'autant plus porté à solliciter des changements dans leur rôle qu'il voyait que rien n'était arrêté dans le plan et dans l'exécution flottante de l'ouvrage. Tiraillé de coulisse en coulisse par les réclamations lamentables d'un directeur pressé de jouer, de réaliser en or ses dernières espérances, Balzac fut à plusieurs reprises sur le point de renoncer à pousser plus loin les essais désespérants du noviciat dramatique. Il était horriblement changé. 2 mois et demi de répétition l'avaient rendu méconnaissable, et sa fatigue avait pris un tel caractère public que beaucoup de personnes, sachant l'heure à laquelle il traversait les boulevards pour se rendre chez lui après les répétitions, attendaient son passage. Son vaste habit bleu coupé carré, son gros pantalon cosaque couleur noisette, son gilet blanc à la financière et surtout son énorme chaussure formée de souliers dont on voyait la langue de cuir qui termine le quartier passé sur le pantalon au lieu de se cacher sous le bas du pantalon, tout cet accoutrement deux fois trop ample pour lui, lourd, souillé de boue, car avant l'ère du macadam les boulevards étaient fort sales, sans l'être autant qu'aujourd'hui, disait le désordre, le trouble, l'effroyable bouleversement apporté dans sa personne par les études dramatiques. Et quelles dépenses énervantes de conversation ne faisait-il pas avec tous ceux qui le rencontraient, l'abordaient et voulaient avoir des nouvelles de Vautrin ? Où en étaient les répétitions ? Que disait Frédéric Lemaître de son rôle ? Recours était-il content du sien ? Était-il vrai que l'honnête Moessard, prétextant d'une vie de 65 ans sans tâche, refusait hautement de jouer le rôle de Joseph Bonnet, ancien associé dans les méfaits, coquineries et autres gentillesses de Vautrin et de Charles Blondet, aujourd'hui valet de chambre de la duchesse de Montsorel ? Était-il vrai que le tapissier, les machinistes, les peintres, pour quelque léger retard dans la comptabilité, refusaient leur service ? Il fallait que Balzac, paraphraseur admirable, intarissable, satisfît à toutes ses curiosités péripatétiques, et il fallait surtout qu'il répétât de place en place les mots créés dans le feu de la journée par M. Harel, cet homme prodigieux, qui s'était posé en face du malheur et lui avait dit « Voyons qui aura le plus d'esprit de nous deux ». Il est vrai que, lorsque Balzac racontait à plaisir, sur le boulevard Bonne Nouvelle, les excentricités voltairiennes d'Harel, Harel, adossé contre un arbre du boulevard Saint-Martin, redisait, les doigts fourrés dans sa tabatière d'or, les excentricités fulgurantes de Balzac. Tandis que Gemma, autre acteur du théâtre, debout sur les marches du café de la Porte Saint-Martin, disait à son tour et les mots de Balzac, et les mots d'Harel, et les mots de Frédéric, et l'esprit de tout ce théâtre charmant et désolé, qui ne fut jamais plus amusant, plus spirituel, plus gai qu'à cette époque. Il était devenu le Gil Blas des théâtres.